Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors, imaginez un instant, les lumières s'éteignent, la musique monte et hop, les premiers mots apparaissent à l'écran.
C'est un rituel qu'on connaît toutes et tous, hein, au cinéma ou même devant notre série préférée. Mais on oublie peut-être un peu que ces séquences de titres, bah, c'est bien plus qu'une simple formalité, non ?
Absolument. C'est souvent notre premier vrai contact avec l'œuvre, en fait. La première poignée de main, si on veut. Et ça peut déjà nous dire énormément sur ce qui nous attend. Une sorte de carte de visite narrative et esthétique aussi.
Exactement. Et c'est justement cet univers très riche du titrage vidéo qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, avec un œil un peu particulier sur les possibilités qu'offre un logiciel comme DaVinci Resolve. Notre guide pour cette exploration, c'est une source assez pointue. Hein. On s'appuie sur des extraits de « La Bible du titrage DaVinci Resolve 2000 ». C'est un ouvrage très complet de Jean-Pierre Druffin chez Studio G-Prog. Bon, c'est dense, c'est technique, mais visiblement, c'est plein d'infos précieuses.
Ah oui, c'est le genre de ressource qui peut faire un peu peur au début, c'est vrai, mais qui contient vraiment des clés essentielles pour quiconque s'intéresse sérieusement à la post-production vidéo, quoi. Du coup, notre mission, si on peut dire, eh bien, c'est de plonger dans ce guide et d'en extraire l'essence. Comprendre pas seulement comment on fait des titres, mais surtout pourquoi on les fait d'une certaine manière. Quel est leur rôle, comment ils ont évolué, quels sont les principes de design fondamentaux.
Et bien sûr, quels outils DaVinci Resolve nous donne, mais sans forcément se perdre dans chaque petit bouton, chaque curseur. Alors, on est prêt à remonter le fil de ces séquences qu'on sous-estime souvent ? Allons-y. Commençons par la base, oui. Au-delà de lister des noms, c'est quoi la vraie fonction de ces génériques, de ces titres ?
Alors, le guide utilise une analogie que je trouve assez parlante, en fait. Il compare la séquence de titres à la couverture d'un livre. Bon, évidemment, elle donne le titre, l'auteur, mais son rôle principal, c'est de capter l'attention, d'intriguer, de donner un avant-goût sans tout dévoiler. Ou alors, il la compare aussi à l'ouverture d'un opéra. Celle qui installe l'atmosphère, qui introduit les thèmes musicaux clés. Le titrage, c'est un peu le sas d'entrée. Elle doit établir le genre. On sait très vite si on est dans une comédie romantique ou un thriller bien sombre. Elle doit donner le rythme. Est-ce que ça va être rapide, haletant ou plutôt contemplatif ? Et puis l'ambiance générale, elle peut même, de manière assez subtile, introduire des motifs visuels, des thèmes qui vont revenir plus tard dans l'histoire. C'est un vrai exercice d'équilibriste. Il faut suggérer, mais sans spoiler. Et pour réussir ça, le guide insiste beaucoup là-dessus. Chaque détail compte, vraiment. La typographie choisie, la palette de couleurs, l'utilisation de textures peut-être, la façon dont la lumière joue avec le texte, le style de mouvement d'animation.
Le montage même de la séquence de titres, l'imagerie de fond, vidéo, photo, illustration, 3D, et puis les techniques spécifiques utilisées. C'est tout un langage visuel en fait.
Tout à fait. Une police de caractère très classique, très élégante, comme une Dido par exemple. Ça ne communique pas du tout la même chose qu'une police manuscrite un peu tremblante, nerveuse, quoi. Pareil pour les couleurs. Une palette très saturée, très contrastée, ça va évoquer une énergie complètement différente d'un camailleux de gris et de bleu un peu désaturé. Ce sont des choix narratifs dès les toutes premières secondes.
J'y notais aussi que le guide parle des différentes positions possibles pour les titres. Ça me semble un peu bizarre parfois de les voir apparaître en plein milieu d'une première scène, non ? Qu'est-ce que ça apporte, ça ?
C'est une technique qui peut être intéressante pour surprendre ou pour retarder un peu l'entrée formelle dans le récit. Placer le titre principal après une scène d'ouverture assez forte, qu'on appelle un cold open, ça peut créer un effet de rupture. Ça laisse le spectateur reprendre son souffle avant que l'histoire commence officiellement, si on veut. Mais bon, les positions classiques, ça reste évidemment le tout début ou alors la fin uniquement, ou, ce qui est le plus fréquent, la combinaison début et fin.
Et les styles, alors ? Là, ça a l'air d'être un terrain de jeu quasi infini. On peut avoir le texte juste posé sur l'image, des cartons de titres qui alternent avec les premières images, des séquences entièrement graphiques, animées. Et puis, il y a ces cas où le texte devient presque un personnage. Le guide cite l'exemple de Panic Room de David Fincher.
Ah oui, je m'en souviens de ces titres. C'était assez fou comme effet. Comment est-ce qu'ils décrivent ça techniquement, cette intégration ? Oui, Panic Room, c'est vraiment un cas d'école fascinant. Les titres, conçus par The Picture Mill et Prologue Films d'ailleurs, ils ne sont pas juste superposés, non. Ils sont intégrés en 3D dans l'espace, dans l'architecture de New York. Ils flottent entre les immeubles, ils s'alignent sur les façades, ils réagissent à la lumière ambiante comme si c'était de vrais objets physiques présents dans la scène. C'est une fusion très très poussée entre la typo et l'environnement filmé. Et ça renforce immédiatement le sentiment de surveillance, de tension urbaine du film.
Incroyable, ouais. Le guide mentionne aussi d'autres approches créatives, comme combiner des images réelles avec des éléments graphiques animés, ou même utiliser la séquence titre pour raconter une petite histoire qui donne un contexte. On voit ça souvent dans les documentaires, les biopics. Et parfois même, le générique de fin a une fonction en plus, comme dans Une vérité qui dérange, où il sert carrément à donner des conseils concrets. Donc on est loin, très loin de la simple liste de noms qui défilent, quoi.
Exactement. C'est un espace d'expression à part entière. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, ou du moins pas avec les mêmes moyens techniques. L'histoire du titrage, elle est vraiment liée aux évolutions technologiques du cinéma. Allez, faisons ce petit saut dans le temps. Le point de départ logique, c'est les fameux cartons du cinéma muet. Au tout début, c'était très très fonctionnel. Du texte blanc sur fond noir, pour donner le titre, présenter les acteurs, l'équipe technique, et bien sûr, afficher les dialogues ou les explications, les intertitres. Une nécessité narrative absolue à l'époque. Mais même avec cette contrainte, on voit déjà une certaine inventivité qui commence à poindre. Le guide rappelle que D.W. Griffith, par exemple, signa déjà ses cartons, un peu comme pour marquer son œuvre, ou, dans un registre plus expérimental, Marcel Duchamp et Man Ray avec leur spirale de textes hypnotiques dans Cinéma anémique. Et techniquement, un exemple précoce d'intégration, c'est Charlie Chaplin dans Les Lumières de la Ville en 1931. Il superpose le titre avec des lettres faites de cercles lumineux sur une vue de nuit de la ville. C'était une vraie prouesse optique faite en laboratoire.
Et petit à petit, ça se complexifie. Le guide cite The Women, en 1939, qui compare chaque actrice à un animal pour suggérer son caractère. Une idée assez osée pour l'époque, hein. Ou Jeux interdits, en 1952, où les titres apparaissent sur les pages d'un livre d'images pour enfants qu'on feuillette. Ça crée un contraste terrible avec la brutalité de la scène d'ouverture qui suit juste après.
Et puis, il y a des coups de génie conceptuels. Prenez Fahrenheit 541 de Truffaut en 66. Dans ce monde dystopique où lire est interdit, comment on affiche les crédits ? L'idée brillante, c'est de les faire lire à voix haute par une narratrice pendant qu'on voit des images d'antennes de télé. C'est là où la contrainte narrative devient une solution de titrage unique et ça renforce immédiatement le thème central du film.
C'est absolument génial, oui. Et plus récemment, le guide insiste beaucoup sur l'impact de Seven, 1995, encore Fincher, avec des titres conçus par Kyle Cooper. Des gros plans extrêmes sur des détails macabres, du texte comme griffonné à la main, abîmé, presque illisible, des images subliminales, ça a vraiment secoué les conventions, ça.
Oui, Seven a marqué un tournant, par son esthétique sombre, déstructurée, et son montage très très agressif. Techniquement, on est passé des cartons filmés à des techniques plus élaborées. Il y a eu ce qu'on appelle la superposition par matte. On utilisait des masques, des zones noires et blanches sur une autre pellicule pour incruster le texte de façon plus intégrée sur l'image filmée. Ça permettait, par exemple, au texte d'apparaître derrière un personnage qui passe devant. Puis des techniques comme le slit scan, célèbre pour les effets psychédéliques de 2001, l'Odyssée de l'espace, même si ce n'était pas pour le générique principal, qui permettait de créer des déformations, des traînées lumineuses complexes. Chaque innovation technique repoussait les limites créatives, en fait. Et au cœur de toute cette création, il y a deux piliers fondamentaux que le guide explore bien en détail. La typographie et la couleur. Commençons par la typo. Le guide affirme « chaque police a sa personnalité ». Bon, ça semble évident, mais qu'est-ce que ça implique concrètement ? Bah, ça implique que choisir une police de caractère, c'est un acte de communication puissant. C'est la voix visuelle du texte, en quelque sorte. Le guide rappelle la distinction classique entre sérif, avec empattement, ces petites extensions au bout des lettres, comme le Times New Roman, et sans sérif, sans empattement, comme l'Helvetica ou l'Arial. Les polices sérifs sont souvent perçues comme plus traditionnelles, élégantes, sérieuses. Et on dit souvent qu'elles sont plus lisibles pour de longs textes imprimés. Les sans-sérifs, elles, font plus modernes, épurées, directes. Il mentionne aussi d'autres catégories, les polices script, qui imitent l'écriture manuscrite, les displays, plus décoratives, faites pour les titres, les grands formats, les bitmaps, faites de pixels pour les écrans à basse résolution ou pour un effet rétro, et les monospace, où chaque lettre prend la même largeur, ça rappelle les vieilles machines à écrire. C'est déjà tout un paysage en fait, et à l'intérieur de chaque police, il y a souvent toute une famille, avec différentes graisses, light, regular, bold, black, et différents styles, italique, condensed, extended. Choisir entre un bold et un black, c'est pas juste une question d'épaisseur, c'est aussi une question de tonalité, d'impact visuel.
Un point crucial que le guide aborde, et ça me paraît essentiel, c'est la lisibilité. C'est bien beau d'avoir une police super stylée, mais si personne n'arrive à la lire, j'imagine la frustration, hein, passer des heures sur une typo et se rendre compte qu'elle est illisible sur un smartphone.
C'est exactement ça. La lisibilité, c'est la reine. Le guide insiste beaucoup sur l'importance d'adapter la taille du texte à la distance de visionnage et à la taille de l'écran, évidemment. Cinéma, télé, tablette, mobile. Sans entrer dans les calculs précis qu'il donne, le principe est simple. Le texte doit être confortable à lire là où il sera vu. Un autre facteur important qu'il mentionne, c'est l'utilisation de la casse mixte, c'est-à-dire majuscules et minuscules. C'est généralement plus lisible que le texte en tout capital, parce que les formes des mots sont plus distinctives grâce aux lettres qui montent, comme B, D, H, et celles qui descendent, G, P, Q. Logique. Et la lisibilité, ça ne dépend pas que de la police, elle est aussi très liée à l'autre pilier, la couleur. Le guide fait un bref rappel de physique. La couleur, c'est de la lumière, une partie du spectre électromagnétique que notre œil peut voir. Ce qui est fascinant ici, et le guide le développe bien, c'est l'impact psychologique et symbolique des couleurs. On sait tous, un peu intuitivement, que le rouge ou le jaune, ça peut être excitant, énergique, voire agressif. Alors que le bleu, c'est souvent associé au calme, à la sérénité, à la confiance. Il faut être hyper prudent avec les interprétations parce qu'elles dépendent énormément du contexte culturel.
Oui, les exemples qu'il donne sont frappants. Le blanc, symbole de pureté, de mariage chez nous en Occident, mais c'est la couleur du deuil au Japon. Le rouge, synonyme de chance, de prospérité en Chine, peut vouloir dire le deuil en Afrique du Sud. Le noir, associé au deuil ici, est une couleur d'honneur au Japon. Le violet, couleur de la royauté en Europe, est lié au deuil en Thaïlande. Choisir une couleur pour un projet international, ça demande une vraie réflexion du coup.
Absolument. Et au-delà de la culture, il y a les connotations politiques. Le rouge et la gauche, le vert et l'écologie. Religieuse, le bleu dans l'hindouisme, le vert dans l'islam. Une simple couleur porte une charge sémantique énorme. Le guide cite même des études qui montrent comment la couleur de l'éclairage ambiant peut affecter l'humeur, ou comment la couleur de la lumière peut influencer notre perception du goût du vin. C'est fou.
Incroyable. Et d'un point de vue plus technique, pour la vidéo, les écrans, le système de couleurs roi, c'est le RGB, rouge, vert, bleu. C'est un système additif. En mélangeant ces trois lumières colorées, on obtient du blanc. Le guide mentionne aussi le CMYK, cyan, magenta, jaune, noir, qui lui est soustractif et utilisé pour l'impression, les encres absorbent la lumière, ainsi que d'autres modèles comme HSL, HSV, teinte, saturation, luminosité, valeur, ou IUV, très utilisé en vidéo, analogique et numérique, pour séparer la luminance, l'info de noir et blanc, de la chrominance, l'info de couleur.
Voilà. Et pour le titrage dans DaVinci Resolve, c'est principalement en RGB qu'on va travailler, pour définir les couleurs de nos textes, de nos fonds, de nos effets. C'est le langage de l'écran, quoi.
Parfait. Bon, ces bases de typos et de couleurs, elles sont essentielles, c'est clair. Alors maintenant, comment DaVinci Resolve nous aide concrètement à appliquer tout ça, à créer des titres efficaces? Le guide nous présente une vraie boîte à outils, qui a l'air assez fournie quand même.
Oui, le chapitre 6 du guide fait un peu l'inventaire. Resolve propose plusieurs approches pour le titrage, de la plus simple à la plus sophistiquée. On a l'outil texte de base, l'outil texte plus, qui est en fait une porte d'entrée vers le moteur d'effet Fusion de Resolve. On a une bibliothèque de titres Fusion, qui sont préconstruits et souvent déjà animés. On a aussi des outils dédiés aux sous-titres, et puis bien sûr toutes les capacités de la page Fusion elle-même pour faire du titrage 2D et même 3D avancé.
Ok. Et c'est quoi la différence fondamentale entre texte et texte plus? Lequel on choisit et pourquoi?
Le choix se résume souvent à ça. Est-ce que vous avez besoin de la simplicité immédiate pour appliquer rapidement des styles différents, police, taille, couleur, gras, italique, à différents mots ou lettres à l'intérieur d'un même bloc de texte? Si la réponse est oui, l'outil texte de base est idéal. Il supporte ce qu'on appelle le texte enrichi, un peu comme dans un traitement de texte classique. Texte Plus, en revanche, il est beaucoup beaucoup plus puissant pour tout ce qui est animation et effets visuels complexes. Des ombres portées sophistiquées, des contours multiples, des déformations, des animations de caractère individuel. Mais par défaut, un style que vous appliquez s'applique à tout le bloc Texte Plus.
Ah, d'accord. Donc, si je veux juste, mettons, mettre un seul mot en rouge dans une phrase, texte, c'est plus direct. Mais si je veux que les lettres apparaissent une par une avec un effet de rebond, là, c'est texte plussé. Mais alors, comment je fais si j'ai besoin de la puissance de texte plussé et que je veux styliser différemment certaines parties du texte? Ah, c'est là qu'intervient une fonction spécifique que le guide détaille bien, dans le chapitre 9. Le character level styling. Bon, ça demande un petit détour par l'interface de Fusion qui est accessible directement depuis l'inspecteur de texte plus, hein, mais ça permet de sélectionner des caractères, des mots ou des lignes spécifiques et de leur appliquer des styles, couleurs, tailles, polices ou des animations différentes du reste du texte.
C'est l'astuce, en gros, pour combiner la puissance de texte plus avec la flexibilité du style mixte. D'accord, je vois le compromis. Texte pour la simplicité, du style mixte, texte plus pour la puissance d'animation, avec cette astuce du caractère level styling pour avoir les deux. Mais ça demande une petite étape en plus. Le guide mentionne aussi brièvement multitexte.
Oui, multitexte, c'est une autre option basée sur Fusion. Elle est pensée spécifiquement pour gérer plus facilement plusieurs calques de texte indépendants, chacun avec ses propres propriétés, ses animations, mais au sein d'un seul et même outil. C'est une alternative qui peut être flexible pour des compositions de titres un peu plus complexes.
En parlant de puissance d'animation dans Texte Plus, le guide met en avant quelques fonctions spéciales. Il y a ce fameux Sticky Character Level Styling dont on vient de parler. Il y a aussi le Follower, le concept. Imaginez les lettres qui apparaissent l'une après l'autre avec un délai. Ça doit permettre des effets d'écriture ou de révélation super sympas, non ?
Absolument. Le Follower, c'est un modificateur très polyvalent. Il permet d'appliquer une animation que ce soit sur la position, la taille, l'opacité, la rotation, mais de manière séquentielle, au caractère, aux mots ou aux lignes, avec un délai qu'on peut régler entre chaque élément. C'est parfait pour l'effet machine à écrire, oui, mais aussi pour des apparitions plus organiques, des effets d'ondulation. Et l'autre qui m'a intrigué, c'est le text scramble, l'effet panneau d'aéroport, là où les lettres s'agitent dans tous les sens avant de trouver leur place. Ça doit être génial pour créer une ambiance de thriller technologique ou de message crypté, j'imagine.
Exactement. Text scramble, ça génère cet effet de caractère aléatoire qui se résolve petit à petit pour former le texte final. C'est visuellement très dynamique et ça peut connoter le hasard, la technologie, le décodage, le mystère. C'est très efficace pour certains genres de films ou de séries.
Le guide explore aussi d'autres applications pratiques, comme la création de génériques de fin avec plusieurs colonnes, chapitre 13. L'astuce, ça repose sur l'utilisation des tabulations, c'est ça ?
Tout à fait. L'idée, c'est de préparer son texte souvent dans un éditeur externe, c'est plus simple, en utilisant des caractères de tabulation pour séparer les informations. Par exemple, le métier, tab, le nom. Ensuite, dans l'inspecteur de texte plus, ou de texte, ça marche aussi, on utilise les contrôles de tabulation pour définir très précisément la position et l'alignement de chaque colonne. Tabulation. Et les noms à gauche sur la deuxième. C'est une méthode structurée et efficace pour gérer les longues listes de crédits de fin.
Intéressant. Et juste pour mentionner d'autres possibilités qui sont évoquées, on peut apparemment créer des textes texturés, c'est-à-dire remplir les lettres avec une image ou une vidéo via l'onglet Shading de Text Plus. Et on peut même s'aventurer dans le titrage 3D chapitre 15 via la page Fusion. Là, on imagine un niveau de complexité encore au-dessus, avec gestion de caméra 3D, de lumière, d'extrusion.
C'est ça. La page Fusion, c'est un environnement de compositing nodal très très puissant. Elle permet de créer des scènes 3D complètes, d'y intégrer du texte en 3D, de l'animer, de le texturer, de l'éclairer de façon réaliste et de l'intégrer dans des décors virtuels ou même des prises de vue réelles. Le guide donne un exemple avec une planète et un texte 3D qui orbite autour. Bon, c'est clairement pour des besoins plus avancés, on est d'accord. Et un dernier domaine important abordé par le guide concernant Resolve, ce sont les sous-titres, chapitre 14. Au-delà de la gestion classique, hein, les pistes dédiées, l'import-export de fichiers .srt, il y a une fonction qui semble particulièrement bluffante, la création automatique de sous-titres à partir de l'audio.
Oui, ça c'est une fonctionnalité basée sur l'IA qui est devenue très performante, surtout dans la version studio de Resolve. Elle analyse l'audio d'une piste ou d'une timeline entière et elle génère automatiquement une piste de sous-titres synchronisée.
Le guide souligne sa capacité à gérer la ponctuation, les majuscules au nom propre et même à identifier différents locuteurs. C'est un gain de temps considérable.
Par IA, avec des effets visuels pour améliorer la lisibilité et l'attrait des sous-titres. Le guide mentionne aussi les régions de sous-titres qui permettent d'afficher plusieurs blocs de sous-titres en même temps à des endroits différents de l'écran jusqu'à 3, ce qui est pratique pour gérer des dialogues qui se chevauchent sans que ça devienne illisible. Donc si on essaie de résumer un peu ce que propose Resolve d'après ce guide, on a l'outil texte pour les besoins simples, rapides, avec du style mixte. On a Texte Plus pour la puissance d'animation 2D, les effets sophistiqués, avec l'astuce du caractère level styling si besoin. On a des outils très performants pour les sous-titres, y compris avec de l'IA.
Et puis, la porte ouverte vers la 3D et le compositing avancé via Fusion. Ça couvre un spectre énorme, en fait.
C'est exactement ça. La philosophie de Resolve, ça semble être d'offrir des outils accessibles pour les tâches courantes, tout en intégrant des fonctionnalités de niveau vraiment professionnel pour ceux qui veulent aller plus loin. Et tout ça dans le même logiciel. C'est assez fort.
Pour être tout à fait complète, le guide consacre aussi un chapitre à un autre logiciel, Bluff Titler, chapitre 16. Juste un mot rapide, histoire de savoir de quoi il retourne.
Oui, alors Bluff Titler, c'est un logiciel qui est spécifiquement dédié à la création de titres et d'animations 3D en temps réel. Il a une approche et une interface assez différentes de Resolve. C'est basé sur un système de calque, de preset. Il est réputé pour être assez rapide à prendre en main pour certains types d'effets 3D. Le guide le présente comme une alternative possible, voilà. Mais le cœur de l'ouvrage, ça reste bien DaVinci Resolve.
Parfait, merci pour cette clarification. Concentrons-nous donc sur les enseignements qu'on a tirés concernant Resolve. Oui, si on essaye de prendre un peu de hauteur après cette exploration, guidée par la source, il y a plusieurs points clés qui émergent, je trouve. Premièrement, l'importance narrative et esthétique des titres. Ce ne sont pas des simples informations, non. Ce sont des éléments qui participent vraiment à l'expérience du spectateur, qui donnent le ton. C'est une excellente synthèse, et ça m'amène à une dernière réflexion, en fait. Maintenant qu'on a un peu mieux compris tout ce qui peut se cacher derrière une séquence de titres, est-ce que notre regard va changer la prochaine fois qu'on lancera un film ou une série ? Est-ce qu'on va se surprendre à analyser les choix de police, la palette de couleurs, le rythme de l'animation ? Ou peut-être à se demander comment l'intelligence artificielle qu'on a vue à l'œuvre pour les sous-titres va continuer à transformer ce domaine ? Est-ce qu'on va vers une génération de titres encore plus automatisée ? Quelle nouvelle forme de créativité ça pourrait ouvrir ?
C'est la question passionnante qui reste ouverte, oui. Observer activement ces séquences, même les plus simples, ça peut devenir un exercice vraiment fascinant pour essayer de déceler les intentions, les techniques. Et l'évolution technologique, elle, promet sans doute encore bien des surprises.
Absolument. Eh bien, voilà qui conclut notre exploration du monde fascinant du titrage vidéo, éclairé par les extraits de la Bible du titrage DaVinci Resolve 24. Un grand merci d'avoir partagé cette analyse avec nous.